affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Bienvenue sur Canal Académie. Aujourd'hui, nous allons déambuler dans les jardins secrets de Jean-Michel Autoniel. Ce plasticien rallume les étoiles de notre monde désenchanté. Il suspend des colliers dans les arbres, sème des perles colorées sur les bassins de Séville ou de Versailles à Paris. Il métamorphose une station de métro en kiosque des Noctambules à Angoulême. Il dote la cathédrale d'un nouveau trésor. Il creuse des cavernes, ouvre des escaliers, entre en lévitation pour nous mener dans son pays de poésie où le merveilleux existe encore. Jean-Michel Autoniel a été élu à l'Académie des Beaux-Arts en 2018 dans la section sculpture. Bonjour à vous.
Bonjour.
Alors il y a quelques semaines déjà, quand vous avez été installé sous la coupole, votre confrère Adrien Goetz a dit que vous étiez l'éternel petit prince de l'art contemporain. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette expression ?
Je pense que c'est un mot gentil qu'il a voulu me donner. Je suis un artiste quand même qui travaille maintenant depuis 35 ans. Donc c'est un long parcours qui a commencé à la fin des années 80 et qui s'est ponctué de beaucoup de voyages, beaucoup d'expositions à l'étranger. Et c'est peut-être la curiosité du petit prince, c'est peut-être ce que j'ai su garder, oui.
Alors vous êtes né à Saint-Étienne dans les années 60 et nous sommes alors dans une ville industrielle, bien loin des milieux artistiques. Comment avez-vous construit votre univers intérieur à ce moment-là ?
Saint-Étienne est une ville aujourd'hui tout à fait nouvelle et joyeuse, mais à l'époque, dans les années 60, à la fin des années 60, c'était une ville encore où les mines étaient encore en activité. C'était une ville sombre où il ne se passait pas grand-chose, à part un très beau musée d'art contemporain, qui est le musée d'art contemporain de Saint-Étienne, qui a la plus grande collection après le Centre Pompidou. Donc c'est un musée qui a, je crois même, la plus grande collection des années 70, de ces années dont nous parlons actuellement, et qui m'ont permis, moi, en tant que jeune garçon qui allait à l'école, d'aller tous les mercredis après-midi visiter ce musée et d'être en contact justement avec la création contemporaine, très très contemporaine, puisque on pouvait voir des artistes comme Tony Cragg qui devait avoir 24 ans ou plein de jeunes artistes, beaucoup d'Américains qui venaient à Saint-Étienne pour exposer, pour y travailler. Et moi, ça m'a ouvert les yeux, c'était vraiment un lieu d'émerveillement, oui, justement.
Et pour vous, qu'est-ce que ça signifiait devenir un artiste ?
Alors, devenir un artiste, c'est une autre histoire. Je crois qu'être fasciné par le monde de l'art, par ce milieu de l'art, comme on disait à l'époque, était pour moi comme une lucarne qui s'ouvrait sur un monde meilleur, justement, sur l'émerveillement, sur la couleur, sur l'exotisme. Et j'ai pris beaucoup de plaisir en tant qu'enfant à me laisser porter par cet art des années 70, bien que ce soit un art très minimal, plutôt aride, mais que j'y ai toujours vu quand même un espace où on pouvait être différent, on pouvait être peut-être continuer à s'amuser. C'était peut-être ma vision d'enfant. Et après, devenir artiste, c'est autre chose. Devenir artiste, et à un moment donné, bon, ce milieu-là, on peut être dans ce milieu artistique sans être artiste, soit enseigner, soit, je ne sais pas, moi, écrire sur l'art, soit, enfin, il y a plein de possibilités. Et artiste, c'est un moment, je pense, dans votre vie où c'est pas vous qui choisissez, en fin de compte. On choisit, c'est la vie qui choisit pour vous, qui fait que vous vous engagez voilà, dans cette vocation et que vous découvrez petit à petit. Et c'est vraiment, en tous les cas, pour moi que ça s'est passé. J'ai pas eu, je dirais, bien que j'ai été toujours passionné par l'art dès l'âge de 7 ans, le fait de devenir artiste, c'est autre chose dans une vie, je crois.
Alors à ce moment-là, au début, dans les années 80, vous avez choisi de travailler un matériau assez peu usité, le soufre. Qu'est-ce qui vous intéressait dans ce médium ?
Alors moi, au départ, j'ai travaillé vraiment sur des matériaux photosensibles qui étaient le ferroprussiate, enfin, toute cette petite chimie de la photographie, cette idée où une image pouvait apparaître, une image un peu... oui, comme une apparition du merveilleux ou de sur des plaques sensibles. Et puis, de matériau en matériau, je dirais que j'ai glissé jusqu'au soufre, où là, j'ai découvert autre chose qui est au départ un jeu sur les mots, pouvoir jouer sur les titres de mes œuvres et donc avoir une œuvre presque littéraire, illustrée par des sculptures. Et donc, les titres étaient donnés naissance aux œuvres en jouant sur... les symboliques de soufre, souffrir, sulfureux, souffroteux, enfin tous ces mots qui faisaient que de ces descriptions naissaient des objets avec un matériau qui, c'est vrai, n'était pas du tout utilisé en art, qui était le soufre. Donc ce matériau jaune qu'on connaît beaucoup, qu'on voyait autrefois dans la rue pour empêcher les chiens de pisser le long des murs, et qui est un matériau... tout à fait extraordinaire, parce que c'est un métalloïde qui se fond et qui se transforme du solide pour devenir liquide, pour redevenir solide. Et donc moi, j'ai toujours voulu intervenir à ce moment de métamorphose du matériau, là où, la matière prenait une autre forme, et c'est là où j'intervenais. Et donc j'ai fait beaucoup, beaucoup d'œuvres pendant une dizaine d'années avant d'arriver au verre. Voilà.
Nous sommes aussi dans un monde souterrain avec le soufre, en tout cas dans notre... imaginaire, il vous semblait les aimer, ces mondes souterrains. Je pense par exemple beaucoup plus récemment à la grotte de Narcisse, par exemple.
C'est-à-dire que le parcours de, je dirais que mon parcours personnel à travers mon travail, ça a toujours été un peu ce passage de l'ombre à la lumière, ce passage d'un monde plus intime, personnel, sombre, pour aller vers quelque chose de lumineux, de plutôt dans un désir de communication, d'aller vers l'autre, de passer aussi d'un travail solitaire à un travail en groupe. Enfin, tout cette métamorphose, je dirais, que j'ai vécue dans mon travail, j'aime la partager. Et cette métaphore, souvent, de la grotte, est très, très présente dans mon travail, notamment dans la station de métro au Palais Royal, où on passe vraiment d'un monde souterrain pour aller arriver sous ces deux coupoles de verre lumineuses. Et donc, il y a ce passage de cette bouche de métro qui nous fait passer de l'ombre à la lumière, qui correspondait vraiment à ce moment-là à ce passage du siècle, puisque cette œuvre a été faite pour célébrer les 100 ans du métro, mais surtout le passage à l'an 2000.
Alors, vous parlez du verre, et c'est vraiment votre matériau peut-être de prédilection. Vous l'avez découvert lors de votre séjour en Italie. Vous étiez l'un des résidents de la Villa Médicis. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette rencontre avec le verre ?
Alors, le verre est né d'une recherche presque alchimique, qui était justement transformer la pierre ponce en obsidienne, qui est le verre des volcans. Et c'est un travail que j'ai fait en étant basé à Naples. Je suis resté plusieurs mois à Naples et je suis allé jusque sur les îles éoliennes, là où le verre, je dirais, le plus ancien au monde, qui est l'obsidienne, était présent.
Le verre noir.
Le verre noir était présent jusqu'au Moyen-Âge. Et puis ce verre a disparu au Moyen-Âge sous une grande coulée de pierre ponce. Et il se trouve qu'on m'a... lancer un peu ce défi. Enfin, Mademoiselle Cavalier, vulcanologue et archéologue que j'avais rencontrée sur les îles éoliennes, m'avait dit « Celui qui pourra refondre la pierre ponce en tirera l'obsidienne ». Et je suis parti de ces îles avec ce message, un peu comme un message pitique presque, en me disant « Je veux relever ce défi, donc avec un peu de pierre ponce dans ma valise ». Et j'ai appelé le CIRVA à Marseille, qui est un centre de recherche sur le verre, qui est assez unique au monde. En France, on a de la chance d'avoir ce centre de recherche qui travaille avec des artistes. Et je leur ai demandé de m'accompagner dans cette recherche alchimique de transformer la pierre ponce en obsidienne, ce qu'ils ont accepté. Et on a travaillé plus de 2 ans sur ce projet et on a fait renaître cette obsidienne disparue de Lipari. Et pendant ces 2 années où j'étais là à regarder les verriers travailler autour de moi, je me suis dit, j'ai envie de sortir de la solitude de l'atelier pour travailler en équipe, pour travailler avec ces gars qui ont un savoir-faire incroyable, où justement cette idée de la métamorphose d'un matériau qui se transforme du solide au liquide, tel que je l'avais vécu moi-même dans mon atelier en petit alchimiste en travaillant avec le soufre, je pouvais le faire avec des verriers et travailler avec eux sur ce moment de fragilité d'un matériau qui s'abandonne pour lui donner une nouvelle forme. Et donc, je ne pouvais pas le faire seul, parce qu'être verrier, c'est un vrai travail d'artisan. Il faut être virtuose dans son domaine. Et donc, je travaille un peu comme un chef d'orchestre, en fin de compte, où j'écris une partition, je choisis les meilleurs interprètes et je dirige... je dirais l'opéra ou le concert que je veux mener. Donc c'est comme ça que je travaille en équipe et c'est vraiment passionnant parce que c'est aussi comment se retrouver dans le geste de l'autre, c'est-à-dire comment arriver à ce que quelqu'un qui maîtrise très très bien sa technique puisse répondre à mes désirs les plus fous.
Et le verre, vous aimez le travailler à chaud, à froid, les deux ?
Alors, moi, j'aime plutôt le travailler à chaud parce que j'aime justement ce moment de grâce où la matière s'effondre, où elle change de couleur, où elle a une chaleur qui est aussi proche du corps, où le verrier est presque obligé d'embrasser la matière en soufflant dans sa canne. Donc, il y a vraiment un rapport très, très sensuel à ce matériau que j'aime beaucoup, qu'on n'a pas du tout dans le travail à froid, où là, on est dans quelque chose de très technique. Et ça m'est arrivé de faire...
Dans une lutte, presque.
Il y a une lutte dans les deux cas, mais la lutte, je dirais, du verre à chaud est beaucoup plus sensuelle. Et moi, j'ai toujours eu cette recherche quand même d'une grande sensualité dans mes œuvres. On le voit, les perles que j'utilise sont souvent des perles baroques, ce ne sont pas des perles parfaites. Que quand je travaille la fonte d'aluminium, par exemple, aussi... On a l'impression qu'elle a été caressée, qu'elle est polie par les mains de celui qui la regarde. Donc il y a toujours un rapport à la sensualité qui est très très importante, comme une sorte de porte d'entrée dans les œuvres.
Vous avez dit que vous considérez un peu comme un chef d'orchestre, et dans le domaine du verre, vous avez rencontré des virtuoses particulièrement renommées à Murano. Et je crois que cela a été... peut-être difficile au début de se faire accepter ces virtuoses, il faut les amadouer d'une certaine façon.
Oui, parce que c'est un monde relativement fermé, notamment à Murano. C'est vrai que c'est un monde de secrets sur les couleurs, de secrets sur les savoir-faire. Et il m'a fallu une porte d'entrée. Et la porte d'entrée, ça a été vraiment mon exposition au Guggenheim en 97, où là, grâce au Guggenheim et grâce à des grands amis du Guggenheim, dont Marie Brandolini par exemple, j'ai pu rentrer en contact avec les meilleurs souffleurs de Murano, qui m'ont fait une petite place dans leur Fornace, qui est cette petite fabrique de verre, de façon à pouvoir être au plus près des souffleurs. Chose qui était très difficile à l'époque. Aujourd'hui, Murano, malheureusement... souffre beaucoup de cette concurrence internationale et à la recherche d'artistes pour justement pouvoir survivre. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile pour un artiste d'avoir accès à ses savoir-faire que ça ne l'était il y a 20 ans.
Est-ce que c'est aussi la découverte d'une palette particulièrement éclatante là-bas ?
Alors la palette, oui, c'est vrai que la couleur est très sensuelle en Italie.
C'est-à-dire par rapport à l'obsidienne, par exemple ?
Alors l'obsidienne, c'est l'opposé du verre. C'est j'ai commencé avec un verre qui était un verre qui avait, je dirais, toutes les contre-caractéristiques du verre, c'est-à-dire il était opaque, il était noir, il était impossible à souffler. Donc c'était vraiment quelque chose de très très complexe avec des températures très hautes, puisqu'on atteignait les températures de la lave. Tandis que le verre de Murano, qui est un verre qui lui a été dompté depuis des siècles par les verriers vénitiens, il a une très très belle couleur parce que le verre est teinté dans la masse. C'est un des rares endroits au monde où le verre est vraiment teinté. Donc on souffle du verre de couleur. Il est travaillé à la main. Souvent les verriers n'ont qu'un papier journal plié en quatre sur la main pour sculpter le verre à chaud. Donc il y a vraiment un rapport direct de la main du souffleur avec la forme. Donc c'est très proche du travail de sculpteur, en fin de compte. Et puis, c'est, je dirais, un verre qui nous amène dans une vision du verre très, très liée à cette idée de la beauté, de la jouissance. On est en Italie. On est en Italie avec...
Et à Venise.
Et à Venise, avec tout ce qu'on connaît des grands coloristes italiens. Et on le retrouve dans la palette du verre italien. Et chaque pays, en fin de compte, a sa vision du verre très différente. Et j'aime explorer ces visions différentes, bien que la technique soit presque toujours la même.
Alors, dans votre travail, vous aimez souvent travailler sur des effets de série en répétant un élément, peut-être en le déformant. Par exemple, la perle, par exemple, la brique. Qu'est-ce que traduit cet amour du motif, d'une certaine façon, de la répétition?
Alors, c'est plutôt un amour du module, presque dans une approche conceptuelle du projet, c'est-à-dire se dire qu'une œuvre, si on veut qu'elle soit modulable, il faut qu'elle soit faite d'éléments qui puissent être multipliés à l'infini. Donc, la perle est arrivée... un peu comme une évidence en travaillant à Venise, parce qu'il y avait ce rapport à la sensualité, au corps, au collier qu'on peut porter, bien que les perles que je fais souffler soient des perles...
trop grandes.
Oui, sont des perles de géants. Donc elles sont plus proches de l'architecture. Du coup, ça me permet d'arriver à des sculptures qui peuvent être monumentales grâce à cet élément de module qui est multiplié. Et là, récemment, la brique donc de verre, qui est une brique un peu antinomique avec ce qu'on pourrait imaginer être une brique, c'est-à-dire qu'elle est, elle n'est pas structurelle, elle est fragile, donc elle n'est pas empilable. Elle joue sur l'illusion de la brique, en fin de compte. Elle, je l'ai fait réaliser en Inde avec des verriers indiens, avec qui j'ai travaillé longuement et qui apporte autre chose dans cet univers, qui apporte une autre vision du verre qui est peut-être plus proche du pays des mille et une nuits, un côté comme ça, très d'espace de rêve en fin de compte, plus encore que le rapport à l'Italie.
Il y a à la fois le rêve et puis le rapport à la science mathématique qui vous fascine. On le sent par exemple avec les nœuds sauvages que vous avez... l'exposition qui était présentée au Petit Palais récemment.
L'exposition au Petit Palais montre justement une chose pour moi importante. C'est ce grand écart que j'arrive à faire entre une forme minimale, mathématique, modulaire, donc avec, qui pourrait être presque de l'ordre de l'art minimal, et une forme qui fait appel à la sensualité, au baroque, à la jouissance. Et donc il y a cette espèce de grand écart, et j'ai trouvé ce que m'a apporté cette exposition au Petit Palais, c'est vraiment ça, c'est cette démonstration de force qu'il y a à pouvoir concilier les deux. Et je suis très content de cette exposition pour ça. C'est ce qu'elle m'a apporté à moi, c'est cette vision sur mon travail que j'avais, mais que j'avais du mal à démontrer. Et en fin de compte, ça a été vraiment une exposition en dehors de sa magie, de cette immersion dans laquelle on est, qui est une immersion très sensuelle, où les images qu'on voit de cette exposition ne témoignent pas de cet univers dans lequel on vient se baigner. Mais par contre, moi, ça m'a vraiment apporté comme une évidence que j'ai mis longtemps à voir, puisqu'il m'a fallu 10 ans, ce travail avec le mathématicien mexicain, pour voir comment je pouvais concilier abstraction et sensualité.
C'est drôle que vous disiez se baigner, parce que moi j'avais en tête le terme immersion, et l'élément liquide est vraiment très présent dans votre travail. Vous avez souvent travaillé sur des fontaines, par exemple, ou des étendues d'eau.
C'est-à-dire que l'eau et le rêve sont toujours très liés dans la psychanalyse, mais il y a aussi ce rapport à la vie qu'apporte l'eau au verre. C'est-à-dire que l'eau, c'est presque comme une prolongation du matériau qui lui redonnerait vie. Et ça, c'est très fort dans les fontaines de Versailles, par exemple, où les jets d'eau, quand les fontaines sont très belles quand elles ne sont pas allumées, quand elles ne fonctionnent pas, mais quand elles fonctionnent, on part dans un autre... notre rapport à l'espace, au son, au mouvement. Et l'eau apporte vraiment une grande poésie aux sculptures.
Et à Versailles, vous avez eu la chance de créer votre bosquet.
Alors, j'ai eu la chance de travailler avec Louis Bénèche, qui est un très grand paysagiste et qui a fait appel à moi pour qu'on concourt ensemble pour refaire un des bosquets de Versailles, qui est le bosquet du Théâtre d'Eau. Et donc, Louis a redessiné entièrement le jardin. Et moi, j'ai fait des sculptures fontaines qui sont posées sur des bassins d'eau et qui se reflètent. Et au moment des grandes eaux, sont remises en eau. Oui.
Et ce sont des pas de danse notés comme une ponctuation.
Oui, en fin de compte, il m'a fallu longtemps avant de trouver comment rentrer dans cette grande histoire qu'est l'histoire de Versailles, quelle responsabilité aujourd'hui de mettre une sculpture pérenne à Versailles alors que les dernières dataient de Louis XVI. Comment trouver moi ma place d'artiste contemporain au milieu de cette grande histoire? C'était vraiment la gageure peut-être la chose la plus compliquée pour moi, ça a été de trouver une sorte de légitimité à intervenir en tant qu'artiste contemporain à Versailles. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de découvrir, lorsque j'étais en résidence au Isabella Stuart Gardner à Boston, un livre qu'avait fait publier Louis XIV sur les pas de danse, puisque la France est le premier pays à avoir écrit sa danse. Et avec une très très belle calligraphie qui vient en regard des notes, en fin de compte, on regarde la musique, des partitions musicales. Et cette calligraphie de la danse, je l'ai vue pour la première fois, elle ressemble tellement à certaines de mes sculptures, c'est-à-dire certains, justement, nœuds infinis, ces sortes de circonvolutions que j'ai utilisées dans mes sculptures depuis 10 ans. J'étais en plein dans ce rapport aux mathématiques et aux signes de l'infini quand j'ai découvert ces pas de danse baroques qui sont eux-mêmes des sortes de volutes incroyables. Et j'ai trouvé là comme une sorte de miroir de mon travail. Et j'ai redessiné ces pas de danse comme si le roi allait redanser sur l'eau quelques siècles plus tard. Et voilà, et donc c'est quand on sait lire la danse baroque et quand on regarde mes sculptures, on peut reconnaître la bourrée d'Achille ou l'entrée d'Apollon, enfin ces sculptures que dansait Louis XIV, qui était notre grand roi danseur et aussi notre grand roi qui a utilisé le soft power, qui est le premier à avoir utilisé la culture pour aller séduire des pays qu'il n'arrivait pas à conquérir. Et donc ces livres dont je me suis inspiré, c'était des livres qui étaient envoyés à toutes les cours d'Europe pour qu'on danse à la française. Et donc on dansait à la française en Russie, en Angleterre, enfin un peu partout, grâce à ces manuels. Et donc c'est ce manuel-là que j'ai pu avoir entre les mains à l'université de Boston.
Versailles, ce sont donc l'eau, mais tout ce qui les environne, les jardins. J'ai l'impression que cette idée du jardin est assez présente, et peut-être du jardin clos d'une façon particulière. On le voit avec le bosquet, le jardin du Petit Palais est enserré au sein de l'architecture du musée. Est-ce que vous avez en vous cette nostalgie du paradis perdu, d'une certaine façon?
Nostalgie, non, mais j'ai des souvenirs d'enfant où je suis allé, enfant, visiter les jardins de l'Alhambra, par exemple, quand j'avais 7-8 ans. Et j'ai des souvenirs vraiment émerveillés de ces visites où les odeurs, les sons, les couleurs, la fraîcheur est très présente. Et j'ai toujours vu mon travail comme un grand jardin, en fin de compte, où toutes mes œuvres se répondraient un peu comme dans Locus Solus de Raymond Roussel, où on se promène et on va découvrir des endroits mystérieux, des histoires racontées. Et c'est un peu le jardin, une sorte de métaphore de ma vision de ma vision créatrice, en fin de compte. Et j'aime beaucoup cette idée aussi de la déambulation et d'un jardin qui nous protège et qui nous fait rêver.
Vous citez Raymond Roussel, c'est un auteur important pour vous?
Oui, c'est un auteur important parce qu'il a su créer des images. Il a su créer des images de sculpteurs, en fin de compte, ou d'artistes. Ce qu'il décrit, c'est comme toujours des moments. C'est pas pour rien qu'il a inspiré Marcel Duchamp et tous les surréalistes. C'est vraiment le proto-surréaliste, mais il a cette naïveté aussi que je trouve très touchante Voilà, et puis c'était un grand bricoleur, un grand fou, comme Pierre Loti, comme tous ces écrivains qui me fascinent, qui ont leur propre univers et qui sont des... C'est pas pour rien que je citais Pierre Loti dans mon discours.
J'allais y venir justement, c'était les deux écrivains présents dans votre discours de réception sous la coupole.
Oui, parce que ce sont des écrivains qui ont créé des mondes à eux, non seulement à travers leur littérature, mais dans la vie réelle. C'est-à-dire qu'ils ont créé des univers. Raymond Roussel a inventé la caravane, la roulotte qui était un peu l'ancêtre du mobilhome, je dirais. Il a eu d'autres inventions incroyables. Il y a eu des attitudes qui sont des attitudes presque d'artiste. Quand il arrive en Inde et qui, de son bateau, il voit l'Inde et il dit, voilà, c'est ça l'Inde, eh bien, rentrons sans mettre un pied en Inde. Ces choses-là, c'est des attitudes d'artistes d'aujourd'hui et qui m'ont toujours fasciné. Et quant à Pierre Loti, c'est l'univers du décor, c'est les costumes, c'est le voyage, c'est le rapport à l'enfance aussi qui est très présente chez Pierre Loti. C'est pour ça que j'avais fait ce travail autour du Petit Théâtre de Podane, qui était le théâtre qu'il avait créé avec sa sœur quand il était enfant, où il avait placé tout ce qui allait être son monde d'adulte. C'est-à-dire qu'on retrouvait autour de Podane plein d'histoires qui n'avaient plus rien à voir avec Podane, mais qui étaient un petit derviche tourneur, alors qu'on sait qu'il a été adulte ambassadeur de France en Turquie, qu'il a écrit évidemment sur la Turquie, quand il parlait de l'Asie avec des petites poupées qui représentaient des Japonaises, et il a écrit Madame Chrysanthème. Donc pour moi, il avait posé enfant tout ce qui allait être son monde d'adulte, et je crois beaucoup à l'adulte qui est dans l'enfant. Et j'ai l'impression moi-même avoir toujours été adulte, même quand j'étais enfant. Et en voyant cette œuvre matricielle de Pierre Loti, j'ai eu envie de la remettre en scène et de créer ce grand décor fait de plus d'une cinquantaine de petites maquettes qui viennent accueillir les poupées de Pierre Loti et qu'on peut voir de temps en temps quand le musée du Centre Pompidou et le musée Pierre Loti se mettent d'accord pour réactiver ce grand décor de verre destiné à recevoir ces toutes petites marionnettes de quelques centimètres de haut.
C'est drôle ce que vous dites, parce que souvent, nous parlons plutôt de conserver l'enfant qui est en nous que de voir l'adulte dans l'enfant.
Oui, mais moi j'ai toujours eu cette vision de moi, mais aussi c'est ce que j'aime chez les enfants. J'aime les enfants qui ont déjà une personnalité, qui sont déjà présents au monde, dans un désir de le changer. Ouais.
Alors Pierre Loti nous entraîne à travers le monde, mais aussi sur les terres charentaises. Et là, vous avez réalisé un autre projet autour de la cathédrale d'Angoulême, un projet d'art total autour du trésor de cette cathédrale. Comment est-ce que vous avez dit oui à cette idée qui était quand même un peu folle ?
J'ai dit oui parce que c'était un projet assez ambitieux de la part des monuments historiques, qui était de restaurer la cathédrale d'Angoulême, non pas dans son état roman, mais dans son état néo-roman, et qui est une période un peu méconnue ou... j'allais dire méprisé, mais sous-estimé de l'histoire de l'art, qui est cette idée du grand décor, des choses qui sont très colorées, où on va amener des nouveaux matériaux dans l'église pour ramener les ouailles à la foi. Et donc, on va créer, on va faire intervenir l'électricité, par exemple, dans les églises, où on va mettre des Saintes Vierges avec des couronnes qui clignotent, chose qui devait être complètement dingue pour des paysans de Charente au début du siècle dernier, où ils n'avaient encore que de la terre battue et ils s'éclairaient à la bougie. Donc il y avait cette idée du grand décor qui m'a beaucoup intrigué. Cette liberté aussi de travailler autour d'un trésor de cette période qui n'est pas un trésor forcément très précieux. J'étais plus à l'aise en manipulant des objets qui étaient faits de tôles embouties avec des fausses pierres précieuses que si j'avais dû travailler avec des cloisonnés rarissimes. Donc il y avait un rapport comme ça, un peu à cette idée de retrouver le merveilleux qu'il pouvait y avoir dans cette période. Et du coup, j'ai eu la chance de pouvoir travailler sur un lieu qui n'était pas consacré, qui était l'ancien...
sacristie.
Oui, enfin, au-dessus de la sacristie, là où on repassait les aubes, comme une sorte de grenier, en fin de compte, gigantesque. Et là, j'ai créé trois espaces où j'ai pu remettre en scène, enfin, même pas remettre, mettre en scène ces objets liturgiques très, très spectaculaires, parce qu'on les a tous restaurés comme à l'époque. Donc, on a retrouvé, je dirais, cette flamboyance des ostensoirs de près d'un mètre de diamètre. Il faut imaginer que tout ça a été porté au milieu des champs. Ça devait vraiment, je dirais, impressionner le public à l'époque. Et donc, j'ai voulu retrouver ça. Et donc, j'ai créé un espace entier. J'ai fait les sols, les murs, les papiers peints, les vitraux, le mobilier qui reçoit les objets, la scénographie. Et tout ça a pris 9 ans. Donc voilà, c'est un projet complètement dingue qui a commencé tout doucement avec justement tous ces conservateurs qui voulaient mettre en avant cette période néo-romane. Et puis un homme formidable qui s'appelle Jacques Soquet qui avait sauvé tous ces objets au cours des décennies presque de la benne, puisque certains n'étaient pas du tout estimés à l'époque. Et là, on a pu faire une sorte de démonstration de force de ce qu'était cet engouement pour cette période de passage du siècle qu'on connaissait plus dans le néo-gothique que dans le néo-roman. Mais c'était très amusant en tant qu'artiste de regarder une période qu'on ne regardait pas.
Et d'ailleurs, en ce moment, il y a un regain d'intérêt pour tous ces trésors de cathédrales. Peut-être que vous y avez contribué d'une certaine façon.
Je pense que c'est plutôt une ouverture qui se passe aujourd'hui où les historiens de l'art regardent l'art liturgique à sa valeur artistique. En fin de compte. Et après, c'est vrai que les artistes, depuis les années 70, sont pas mal sollicités pour des vitraux, pour du mobilier liturgique, choses comme ça. Mais moi, je ne suis pas du tout arrivé dans ce monde-là par, par un rapport au religieux. Je suis arrivé vraiment par un rapport à l'histoire de l'art.
Et à l'art total, parce que vous l'avez dit, de nombreux savoir-faire représentés. Et ce goût des matériaux, ce goût des savoir-faire, on le sent toujours très présent chez vous.
Oui, parce que j'aime apprendre, j'aime découvrir, j'aime être surpris et j'aime travailler avec des artisans parce que souvent, en étant très proche d'un artisan, il y a des choses que lui ou elle ne vont pas aimer, vont penser que ça peut être un accident ou c'est quelque chose. Et souvent, moi, ça me donne une porte, une entrée. Et ça j'aime bien travailler dans cette tension qu'il y a entre le parfait et l'imparfait, et arriver ensemble à développer des nouvelles formes. Oui. Et je l'ai fait avec des brodeuses alors à Rochefort, je l'ai fait avec mon fondeur avec qui je travaille, qui est une jeune femme avec qui je travaille depuis maintenant plusieurs années, mes souffleurs. À chaque fois, on essaye de pousser un peu les limites des matériaux et en allant parfois vers des choses qui pourraient être vues comme des erreurs et qui, en fin de compte, sont pour moi une grande qualité, notamment en Inde, par exemple. Le fait que les pigments soient des pigments naturels, ça fait qu'il y a une vibration dans les couleurs qu'on n'aurait pas si je les avais faites à Venise, par exemple.
Nous avons parlé de rêve, de poésie, de fête, mais il y a aussi certains aspects plus tristes dans le monde et ils sont par exemple présents dans votre œuvre qui s'appelle Bateau de larmes, qui est un hommage aux réfugiés qui ont pu mourir en mer. C'est un contrepoint important d'avoir cette réalité de la détresse humaine aussi présente dans votre œuvre.
Je crois que l'univers du conte est toujours un univers ambivalent. On le voit évidemment dans les contes anciens, il y a toujours une partie sombre, une partie cachée. Quand j'évoquais le passage de l'ombre à la lumière qui est présent dans mon travail, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas apprécier la lumière si on ne connaît pas sa part d'ombre. Et je crois que dans mon travail, il y a cette première approche qui est vraiment de l'ordre de la sensualité, du merveilleux, de l'émerveillement. Mais quand on va voir un peu plus loin, on va se rendre compte que, par exemple, les colliers accrochés dans les arbres à la Nouvelle-Orléans ont la taille d'un corps humain et qui sont accrochés sur des arbres où on pendait les esclaves quand ils voulaient quitter les plantations, par exemple. Donc il y a une sorte de double, mais on y est amené, je dirais, par la poésie, par la beauté. Et après, on peut ou on ne peut pas prendre conscience des histoires cachées. J'aime aussi que mon travail soit au service de causes. Par exemple, là, j'ai fait un monument pour le sida à Amsterdam, qui est un énorme boulier, où chaque année, les associations donnent des chiffres qu'il faut mettre en avant, et en espérant qu'un jour, le chiffre sera zéro, qu'il y aura zéro contamination, zéro malade, zéro traitement, qu'on n'en aura plus besoin. Donc il y a tout un rapport au réel quand même. C'est pas pour rien que j'avais fait une exposition au Centre Pompidou pour les enfants qui s'appelait Le réel merveilleux. C'est-à-dire en même temps prendre conscience que le réel peut être merveilleux, mais qu'il faut aller le chercher, il faut creuser là.
Alors en 2018, vous avez été élu dans cette maison à l'Académie des Beaux-Arts. Je crois que vous avez envoyé votre candidature très tard.
Je l'ai envoyé 10 minutes avant la clôture, je crois. Parce que, oui, c'était pas évident pour moi au départ de me présenter à l'Académie. D'abord parce que je pensais pas qu'on me le proposerait un jour de me présenter. J'avais une vision très fermée de cette institution. J'avais une vision très classique qui n'était pas forcément proche de l'art contemporain dans lequel je me situe. Et en fin de compte, grâce à une nouvelle génération d'académiciens comme Fabrice Hibert, comme Jean-Marc Bustamante, comme Adrien Goethe, j'ai décidé de passer le pas et de me dire il y a peut-être quelque chose à faire ensemble pour s'ouvrir au monde. Et je crois que c'est ce qui se passe. C'est ce qui est formidable en ce moment à l'Académie. C'est justement cette énergie à l'Académie des Beaux-Arts qui est naissante et qui se réveille, parce que je pense que tous les académiciens n'attendent que ça, d'être actifs par rapport au monde, d'avoir un rôle à jouer dans la société. Et je pense que ce que met en place Laurent Petit-Girard participe entièrement de ça, avec les ateliers d'artistes, avec les bourses qu'on donne, avec l'entrée de la bande dessinée, avec tout ça. On a quand même une grande révolution depuis un an. Deux ans maintenant, je vois comment les choses changent et bougent vite et avec une grande force et avec une grande aussi possibilité d'action rapide. Ce que je trouve formidable. Je trouve formidable quand des choses sont décidées, elles sont appliquées très très vite, notamment pendant le Covid. On a pu aider plus d'une cinquantaine d'artistes qui avaient été touchés par le Covid, qui ne pouvaient soit plus travailler, soit qui avaient été malades, soit dont les expositions avaient été, ou les concerts avaient été annulés. Et on a pu pallier, je dirais, une grande détresse très rapidement en octroyant des bourses un peu de sauvetage comme ça. Et ça a été une chose formidable parce que ça s'est décidé très vite. On a tous été d'accord pour mener cette action. L'Académie a trouvé les mécènes qui ont permis de doter ces bourses. Et ça a vraiment, je pense, sauvé la vie de plein de gens.
Vous avez été nommé à la tête de la Villa des Pinsons, qui accueille des résidences artistiques. Quelle vision vous avez pour ce lieu? Qu'est-ce que vous voulez en faire?
Alors ça, c'est un grand projet qui est général de l'Académie des Beaux-Arts, avec plusieurs lieux qui vont accueillir des résidences d'artistes. Et la Villa des Pinsons est un de ces lieux. Il y aura trois lieux et la Villa des Pinsons est un de ces lieux qui sera plutôt dédié aux jeunes artistes. Donc là, je suis en train de relever mes manches et de travailler plutôt sur des choses très très basiques qui sont la remise aux normes des ateliers, des logements, de travailler avec les architectes, avec les équipes de l'Académie pour justement créer toute une infrastructure qui permette d'avoir des ateliers très performants, c'est-à-dire qui sont complètement dans le monde d'aujourd'hui, ce qu'est un artiste aujourd'hui, ce qu'a besoin d'un artiste aujourd'hui. Sachant que c'est dans un endroit incroyable, parce que c'est à 70 km de Paris, mais dans un grand parc, avec beaucoup d'espace, et avec une, donc avec cette idée qu'on va être un peu hors du monde pendant le temps de sa résidence. Et donc là, je suis en train de construire le programme avec les autres académiciens pour voir quel type d'artiste peut venir et peut profiter pleinement de cette résidence, de façon à ce qu'elle reste inoubliable, je dirais, dans la mémoire des jeunes artistes qu'on va accueillir.
Et justement, vous, quel regard portez-vous sur la plus jeune génération d'artistes, celle qui éclot aujourd'hui?
Je pense que c'est une génération, on voit justement avec le Covid, une génération qui a beaucoup souffert, enfin qui souffre beaucoup, parce qu'elle perd en visibilité. Les expos de galerie ont été annulés, les expos... il y a eu beaucoup de en termes de visibilité, il y a eu beaucoup de choses qui ont disparu. Mais en même temps, c'est une génération très forte, comme tous les jeunes, je pense, mais qui ont su se mobiliser, se regrouper. Et donc, il y a beaucoup de collectifs d'artistes qui sont nés. Donc, de là, de jeunes critiques, de jeunes revues. Donc, il y a une présence sur les réseaux sociaux qui est très maîtrisée, qui permet... Donc, je pense que le ressort n'a pas été cassé, mais par contre, on se doit... Nous, en tant qu'académiciens, d'aider cette génération pour que justement ils reprennent pied, ils reprennent visibilité. Si on peut les aider à travers des bourses, à travers des récompenses, je pense que c'est vraiment notre rôle et je suis tout à fait heureux de pouvoir le faire.
Vous-même, vous continuez votre activité de création. Aujourd'hui, qu'est-ce qui continue de nourrir votre inspiration?
Alors, je pense que... Il y a ce rapport à l'international qui est quand même très important pour moi, cette notion du voyage qui a toujours été important dans mon travail, mais qui aujourd'hui, j'en ressens la nécessité, ne pouvant plus voyager. Je sens ce manque vraiment très fort et j'ai hâte de pouvoir voyager. Notamment, mon expo au Petit Palais va aller à Séoul, au Musée National de Séoul. Donc, j'ai hâte de retourner en Asie, de revoir des gens que je connais là-bas, revoir un peu quel est l'état du monde... en Asie et voir comment les gens évoluent aussi là-bas. C'est important de... En tant qu'artiste, on est des grands ambassadeurs, en fin de compte. On est des gens qui ont un peu les antennes toujours dressées pour pouvoir prendre un peu la température du monde, et ça me manque beaucoup. Donc je suis ravi de pouvoir recommencer ça en 2022. Et d'aller me confronter à nouveau avec ces pays que j'admire et dont j'adore la culture, qui sont l'Asie, les États-Unis. Je pense que j'ai la chance d'avoir un travail qui est très présent à l'international. Et je crois que ces voyages nourrissent vraiment mon travail.
Pour finir, Jean-Michel Lautoniel, qu'est-ce que c'est pour vous la poésie ?
C'est une question difficile parce que je crois que elle change selon nos humeurs, elle change selon nos besoins, et ça serait un moment où on pourrait s'abstraire du monde, se nourrir et revenir à la réalité. Ça, c'est ce que j'aime dans la lecture poétique, mais c'est ce que j'aime quand une œuvre aussi m'emmène dans un monde où j'oublie un peu le monde dans lequel on est pour revenir à la réalité. C'est ce que j'essaie de faire avec mes œuvres, en tous les cas.
Eh bien, un grand merci. Je rappelle donc que vous avez été élu à l'Académie des Beaux-Arts en 2018 et installé en raison des conditions sanitaires un peu plus tard en 2021. Vous retrouverez donc sur la chaîne YouTube de l'Académie des Beaux-Arts le discours de réception de Jean-Michel Lautoniel. Vous avez également donné une exposition au Petit Palais récemment et vous nous promettez certainement encore bien des surprises. Merci de votre venue.
Merci de m'avoir accueilli.
Et à bientôt.
À bientôt.